Nous sommes dans cette série de messages sur les mystères du Nouveau Testament révélés pour nous, puisque tous ces mystères qui sont exposés nous sont expliqués par le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on reste dans le brouillard, dans les ténèbres. S'il parle d'un mystère, c'est pour qu'on le découvre, nous qui lisons la Bible et qui aimons le Seigneur. Et j'aimerais qu'on regarde 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, juste comme verset d'introduction. 1 Corinthiens 15, 51. Où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alors effectivement, c'est bien mystérieux, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc on va essayer de voir de quel mystère il s'agit. On va justement voir un certain nombre de versets en 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre de la résurrection. Voilà. Si vous cherchez un chapitre qui parle de la résurrection, c'est celui-là, 1 Corinthiens 15. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la résurrection des morts. D'abord, beaucoup confondent résurrection et réincarnation. Dans quel corps allons-nous ressusciter? Qui va ressusciter? Comment être sûr qu'on va rejoindre le Seigneur après la mort? Est-ce que nous allons rejoindre nos parents, nos familles au ciel? Quel aspect aurons-nous? À quoi sert la résurrection? Pourquoi on va ressusciter? Etc. Toutes ces questions qu'on peut se poser qui sont un peu mystérieuses. Et il y a des réponses dans la parole de Dieu. Mais on pourrait se dire, à quoi ça sert vraiment de parler de ces choses futures alors que nous sommes dans le présent? Eh bien, c'est très important, d'abord parce que la Bible en parle. Si elle en parle, c'est que ça a un intérêt pour nous. Mais aussi parce que c'est notre espérance. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons un jour ce moment de résurrection. C'est notre espérance parce que nous avons un corps bien fragile, un corps bien malade souvent, vieillissant, un corps faible qui devient de plus en plus avec les années un poids au lieu d'être une bénédiction. Et le Seigneur nous promet un nouveau corps. Mais non seulement il nous promet un nouveau corps, mais il nous promet une nouvelle vie. Une vie non plus seulement sur la terre, mais une vie dans la présence de Dieu au ciel. Et lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des épreuves, lorsque on est justement rattrapé par les choses de la terre, c'est bon de pouvoir penser, voilà, ma destination finale, c'est la résurrection. De se rappeler, le Seigneur m'a racheté et un jour je le verrai face à face. Ça encourage, je pense, aux frères et sœurs qui sont persécutés dans leur corps, qui sont affligés et qui risquent la mort pour être chrétiens, eh bien, ils doivent aussi penser à la résurrection, où ils seront débarrassés de toutes ces choses. Alors, nous allons commencer en 1 Corinthiens 15, au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et effectivement, si nous n'espérons en Christ que sur la terre, si après la mort il n'y a plus rien, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, déjà les chrétiens de l'époque étaient persécutés pour leur foi. Ça veut dire, tu crois au Seigneur, tu en baves parce que tu es persécuté et après tu meurs, il n'y a plus rien. Ben à quoi ça sert de souffrir sur la terre si c'est pour qu'il n'y ait plus rien après? S'il n'y a plus rien après la mort, autant en profiter un maximum. C'est pour ça d'ailleurs que la philosophie de beaucoup, hein, mangeons et buvons car demain nous mourrons, c'est-à-dire puisqu'on va mourir, profitons un maximum de la vie. Mais c'est une interprétation très particulière qu'ils font. Profitons, ça veut dire vivons dans le péché. Or, la Bible nous dit que profiter de la vie, ce n'est pas vivre dans le péché, c'est utiliser son temps pour la gloire de Dieu, c'est faire du bien, être dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans les fruits spirituels. C'est ça, le profiter de la vie, ce n'est pas se complaire dans la convoitise et la débauche. Mais le fait qu'il y ait une résurrection, qu'il y ait un jugement et qu'il y ait un salut pour ceux qui croient, ben, ça nous permet de supporter les moments difficiles. Un chrétien, il doit renoncer à certaines choses, c'est vrai. Il renonce, pas pour être sauvé, hein, il renonce parce qu'il est déjà sauvé, parce qu'il est chrétien. Il renonce à certaines fréquentations, à certains péchés, pour suivre le Seigneur. Il renonce peut-être même à certains plaisirs, à certains choix de vie, parce que son but dans la vie, c'est de suivre le Seigneur. Alors, aux yeux des autres hommes, on peut dire, oh là là, oh, tout vous est interdit, vous ne pouvez rien faire, donc c'est pas vrai. Mais ils ont cette impression que nous, les chrétiens, on n'a pas la même vie que les incroyants. On a une vie différente, c'est vrai, mais elle n'est pas moins passionnante. Au contraire, la vie par la foi est pleine d'aventures. Et puis, verset 20, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et il va ici, il explique que notre résurrection à nous, croyants, est liée avec celle de Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 4, 14, je vais vous le lire, il est dit sensiblement la même chose. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Si Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur, je suis certain de ressusciter comme Jésus est ressuscité. J'en suis certain. Et ça fait partie du salut. Si Christ est mon sauveur, je ressusciterai et j'entrerai dans la présence de Dieu avec Christ. Mais Christ, ici, est appelé prémisse. Prémisse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de priorité dans le temps. Christ est le premier homme à être ressuscité. Alors, en disant ça, peut-être certains vont penser, mais dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont ressuscité. Dans les Évangiles, il y a des gens qui ont ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Alors pourquoi vous dites que Jésus est le premier à ressusciter? Parce que les gens qui sont ressuscités avant, ils ne sont pas vraiment ressuscités. Ils sont revenus à la vie. C'est-à-dire, Dieu leur a accordé un temps supplémentaire de vie alors qu'ils étaient morts, hein. Mais Jésus, lui, est ressuscité dans un nouveau corps. Il est le premier homme à prendre un nouveau corps. Comment sait-on qu'il avait un nouveau corps? Il suffit de lire un peu le récit de la résurrection. Je vous invite à le faire puisque c'est la bonne époque. Lorsque Jésus est ressuscité, il a rencontré plusieurs personnes, notamment Marie de Magdala ou bien les pèlerins, les fameux promeneurs là d'Emmaüs, hein, qui allaient vers Emmaüs. C'était des disciples. Marie de Magdala, elle connaissait de très près le Seigneur Jésus. Les deux disciples d'Emmaüs, visiblement, ils connaissaient bien le Seigneur parce qu'ils étaient très tristes qu'il ait été crucifié. Et ils étaient là, et puis ils rencontrent Jésus, et Marie de Magdala, elle voit qu'il n'y a pas le corps dans la tombe, que la porte a été roulée, et elle voit Jésus, et elle dit, oh, monsieur, savez-vous où on a mis le corps de Jésus? Donc elle ne reconnaît pas le Seigneur. Pourtant, elle le connaissait bien. Elle croyait que c'était le jardinier, dit l'Évangile. Donc, il avait une apparence visiblement différente. Et c'est quand il lui dit, Marie, que là, je ne sais pas, elle a dû reconnaître sa voix ou quelque chose, qu'elle dit, Seigneur, c'est toi, tu es ressuscité. Pareil pour les disciples d'Emmaüs. Jésus va faire des kilomètres avec eux à pied, ils vont parler ensemble, et eux, ils vont être là à se lamenter, à dire, oh, c'est terrible. On croyait que c'était le Messie, et puis voilà, les Romains l'ont crucifié, il est mort, et maintenant, notre espérance est anéantie, c'est terminé. Et presque, hein, ils sont complètement démolis, et Jésus va leur parler, et à un moment, ils vont manger ensemble, il va rompre le pain, et au moment où ils rompent le pain, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Un autre passage, Jésus entre dans la maison des disciples alors qu'ils sont un peu cachés, hein, enfermés, et il entre sans passer par la porte, ni la fenêtre, ni aucun élément de la maison, il passe à travers les murs. On voit bien que le Seigneur Jésus a un corps différent, et d'ailleurs, il est resté un certain nombre de jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été, on pouvait le toucher. Il avait toujours les marques des clous, puisque Thomas a mis ses mains dans les marques du Seigneur. Il a mangé des poissons et du pain avec les disciples, mais au bout d'un moment, il n'est pas resté sur terre, il est monté au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Pourquoi ? Parce que son nouveau corps était pour le ciel. Son nouveau corps n'était pas pour rester sur la terre, c'était pour aller au ciel. Et de la même façon que le Seigneur est ressuscité et a été transformé en un nouvel homme, si on peut dire, avec un nouveau corps, nous aussi, nous suivons le même chemin. Lorsque nous ressusciterons, nous aurons un corps comme ça. Un corps où on ne pourra pas vraiment nous reconnaître physiquement de prime abord. Un corps qui peut traverser les murs, un corps qui ne tombe pas malade, un corps qui surtout va au ciel. Christ est les prémices, ça veut dire qu'il est le premier à revêtir le corps de gloire, comme on l'appelle. Et ensuite, nous qui avons cru en lui, un jour, à la résurrection, nous revêtrons ce corps. On découvre en étudiant la question du salut dans la Bible que le salut a trois aspects. Et c'est quelque chose de merveilleux. Quand on croit en Christ, on est sauvé triplement. D'abord, on est pardonné de tous nos péchés. Tous nos péchés sont pardonnés. Ensuite, on reçoit le Saint-Esprit, au moment où on croit, qui nous donne la puissance d'être délivré du péché. Parce que ce n'est pas le tout d'être pardonné. Encore faut-il être délivré pour ne plus pécher. Et donc, on reçoit une puissance qui nous délivre. Et la troisième chose, elle est future, c'est nous serons un jour délivrés définitivement, c'est-à-dire il n'y aura plus de péché dans notre vie lorsque nous ressusciterons. Pour l'instant, même si nous sommes délivrés de la puissance du péché, nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché. Le péché est toujours là, malheureusement, prêt à se faufiler dans nos cœurs et dans nos vies. Mais on attend, et c'est pour ça que certains passages du Nouveau Testament disent « C'est en espérance que vous êtes sauvés. Vous serez un jour sauvés. » Mais on se dit « Mais je suis déjà sauvé. » Pourquoi il dit ça au futur ? Parce qu'il parle de l'accomplissement final. Notre salut n'est pas terminé, il est en cours et il sera terminé quand on recevra notre nouveau corps. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'avec l'expiation, Jésus nous a rachetés pour la guérison. Il y a des églises où on enseigne un évangile de la prospérité où on vous dit que Christ est mort non seulement pour vos péchés mais pour vos maladies. Et donc, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous ne devez pas être malade. Si vous avez la foi en Christ, vous serez guéri de toutes vos maladies. Et c'est prêché, annoncé dans tous les sens. Il y a des séances de guérison. À chaque réunion, il y a des moments de prière pour la guérison, etc. Sans parler du côté doctrinal, qui est, à mon avis, erroné. Dans l'expérience, toutes ces personnes tombent malades. Toutes ces personnes meurent, la plupart d'une maladie, certains peut-être d'accidents, évidemment, on peut mourir d'un accident, mais la plupart meurent de maladies. Tous ces grands guérisseurs, ces grands apôtres de la foi qui disent « j'ai le pouvoir de guérir », ils sont morts de maladies. Leurs enfants sont morts de maladies. Je ne dis pas ça pour les accabler, je dis que c'est une réalité et que Jésus n'a pas promis la guérison sur la terre. Nous pouvons prier, et nous sommes encouragés à prier quand on est malade. Seigneur, je suis malade. Avant d'aller chez le médecin, on commence par prier. Et après, on peut aller voir le médecin. Mais la guérison physique définitive sera à la résurrection. Parce que nous n'avons pas un nouveau corps. Notre corps, c'est l'ancien corps du péché. Et il est corruptible, il est sujet à la maladie. Je continue, il dit, verset 21, « Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il dit cela de Adam. Ce n'est pas Adam que nous sommes mortels, puisque quand Adam a péché, la mort est venue comme un jugement sur toute l'humanité. Dieu ne nous a pas créés mortels. Au départ, nous devions vivre éternellement sur la terre. D'ailleurs, il y avait un arbre de vie dans le jardin d'Éden, et Adam et Ève auraient pu vivre éternellement, comme ça, avec le Seigneur. Mais comme ils ont péché, ça a arrêté la communion, et ils sont morts déjà spirituellement, et puis ensuite physiquement. Et la mort s'est communiquée. Maintenant, nous naissons tous mortels. À la naissance déjà, nous sommes mortels. À cause d'Adam. Mais grâce à Christ, si nous sommes disciples de Christ, nous sommes plus mortels, nous sommes immortels. Et regardez avec moi Jean chapitre 11, cette promesse du Seigneur, hein, il va ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, versets 25-26. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que celui qui croit au Seigneur Jésus continuera à vivre même après la mort. La mort n'est qu'un rideau comme ça, là. Ça, c'est la mort. La mort n'est plus cette chose horrible, effrayante, ténébreuse, où on se dit, que va-t-il se passer? Si on a Christ dans sa vie, la mort, c'est un rideau. Et après que notre corps ou notre cœur se soit arrêté, notre âme continue à vivre, cette fois-ci, dans la présence de Dieu. Ça, c'est par Christ, hein, c'est grâce à Christ. Il a enlevé la malédiction d'Adam pour ceux qui croient en lui. Verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. On va en reparler. Verset 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ici, c'est eschatologique, il parle de la fin des temps. Il explique que Christ va revenir sur la terre pour régner pendant, alors il ne dit pas ici, mais dans l'Apocalypse 20, on voit que c'est pendant 1000 ans. Et pendant ce règne, il va écraser hein, toute autorité, domination, puissance qui est opposée à Dieu. On sait que pendant ces 1000 ans, Satan sera enchaîné, que les démons seront liés. Et quand Christ aura régné pendant ces 1000 ans, eh bien Satan et ses anges vont se révolter une dernière fois, ils vont être jetés dans l'étang de feu, et la mort sera aussi évacuée pour toujours. Il n'y aura plus de mort. Christ reviendra pour régner définitivement sur la mort. Voilà ce que Christ va faire. Non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il va éliminer toute cause de la mort. Les autorités, les dominations, là, c'est justement Satan et ses démons. C'est eux qui ont tenté Adam et Ève. Hein. C'est Satan qui est à l'origine du péché, qui a séduit Adam et Ève. Eh bien, tout cela, toute cause de péché sera éliminée, tout ce qui a causé la mort, et Dieu va même refaire la terre, dit la Bible. Verset 28, et lorsque toutes choses auront été soumises à Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En tant qu'homme, Christ remettra le royaume à son Père, hein, en tant que Fils. Voilà. Il dira, voilà, j'ai régné sur la terre, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu les démons. Maintenant, Seigneur, à toi, voilà, Père, à toi toute la gloire. Et puis on arrive au verset 29 qui pose beaucoup de questions, qui est peut-être un mystère encore plus grand que le reste. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors quand on lit ça, ah, alors il faut se faire baptiser pour les morts? C'est ce que font les Mormons, figurez-vous. Hein? Les mormons pratiquent le baptême pour les morts, c'est-à-dire il y a des mormons qui cherchent les noms des gens, et ils cherchent les noms des gens partout dans le monde. Hein? Ils vont dans les mairies françaises, ils prennent tous les extraits de naissance, les noms, les dates de naissance, et ensuite ils vont aux États-Unis et ils se font baptiser pour les Français qui sont morts, même il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Et il y a certaines personnes, ils se sont fait baptiser pour 1000 personnes. Hein? Par contre, il faut payer à chaque fois que vous vous faites baptiser. Hein, parce que l'église mormone aime bien l'argent. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que ce verset nous dit, voilà, on doit faire comme les mormons. On doit se faire baptiser pour les morts. Il y avait au temps de Tertullien qui vivait au IIe siècle, quelques croyants plutôt hérétiques qui baptisaient les proches parents lorsqu'un chrétien mourait sans être baptisé. Par exemple, quand quelqu'un se convertissait au Seigneur mais n'avait pas le temps d'être baptisé, il mourait avant, le pasteur de ce groupe-là disait « Bon, ben, il n'a pas pu être baptisé, donc on va baptiser la famille à sa place. » Bon, la Bible ne dit pas que la famille peut être baptisée à notre place. Le baptême, c'est personnel. Des fois même, ils mettaient le cercueil au-dessus de l'eau pour dire « on le baptise ». Bon, c'était vraiment bizarre. Je ne pense pas personnellement que ce soit ça que le Seigneur veuille nous dire. Alors, ce n'est pas évident de comprendre. Ce qu'on sait, c'est que le baptême, c'est pour les disciples de Christ et pour les disciples vivants. Donc, on ne doit pas baptiser pour les morts. Alors, la seule explication que les étudiants de la Bible ont trouvée qui tiennent vraiment debout, c'est que c'est une image, c'est-à-dire que lorsque les chrétiens meurent dans la foi, ceux qui les suivent se font baptiser en pensant à eux, en reprenant le flambeau, si vous voulez. Hein. C'est l'image, par exemple, d'un champ de bataille. Vous avez les premières lignes qui chargent et ils meurent. Et vous êtes en deuxième ligne, vous continuez. Hein. Et c'est un peu pareil, les chrétiens mouraient souvent de persécution. Hein. L'Empire romain persécutait violemment les chrétiens. Et il y avait toujours une génération qui se levait, qui se faisait baptiser au nom du Seigneur pour les morts, dans le sens pour remplacer les morts, si vous voulez. Hein? C'est ça qu'on pourrait dire. Ce n'est pas un verset facile à interpréter, mais ça ne veut certainement pas dire qu'il faut se faire baptiser pour les morts. Chacun doit être baptisé pour lui-même. D'ailleurs, dans le contexte, il dit bien « Et nous, verset 30, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?» Donc on voit bien que le contexte, c'est la persécution. « Chaque jour, dit-il, je suis exposé à la mort. » Donc ça confirme quand même. Il parle de combattre au verset 32 contre les bêtes à Éphèse. Hein. À Éphèse, il a été tellement persécuté qu'il avait l'impression de se battre contre des bêtes sauvages. Et puis, c'est là qu'il cite ce fameux verset « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Il y avait dans l'église de Corinthe des gens qui se disaient chrétiens, mais qui en fait ne connaissaient pas Dieu, et qui ne vivaient pas du tout en pensant à la résurrection. Quand vous pensez à la résurrection, vous pensez au ciel, au retour de Christ. Et quand vous pensez au retour de Christ, votre vie est différente. Vous vivez moins dans le péché, vous vivez moins pour le monde. Vous vivez avec cette espérance en disant « Je veux que ma vie compte avant que le Seigneur revienne, avant de mourir. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu les dernières paroles d'Adolphe Monod. Hein? Les adieux, ça s'appelle. Donc, si jamais vous trouvez ce livre qui n'est plus édité, mais enfin, si vous le croisez, voilà, on peut l'avoir en format numérique sur Internet. Les adieux d'Adolphe Monod. Adolphe Monod était atteint d'une maladie grave et il a passé plusieurs mois, je dirais, alité. Et les étudiants qu'il avait pour pasteur venaient lui rendre visite et faire un culte dans sa chambre. Et certains ont pris des notes de ce qu'il leur disait. Et ces notes sont les adieux d'Adolphe Monod. Et C'est les dernières paroles d'un mourant. Et il exprime un certain nombre de regrets. Il dit « Ah, j'aurais dû prier plus. J'aurais dû aimer plus le Seigneur. J'aurais dû... » etc. Et c'est vrai que quand on arrive devant la mort, on a plein de regrets. On se dit « J'ai raté ça, j'ai raté ça. » Mais la Bible nous dit « C'est pas quand on va mourir qu'il faut avoir des regrets. C'est maintenant qu'il faut vivre pour le Seigneur. » En pensant qu'on va mourir et ressusciter. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre pour le Seigneur. Encore une fois, je répète, on ne vit pas pour le Seigneur pour mériter son salut. Hein. Le salut ne se mérite pas, c'est un don de Dieu, une grâce qu'on reçoit par la foi. Mais on vit pour le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a rachetés, par reconnaissance. Et puis, verset 35, il va expliquer comment va se passer cette résurrection. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Et là, il va donner une image. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. C'est l'image du grain. Quand vous plantez une graine, vous la plantez avec espérance qu'elle va porter du fruit. Vous ne la plantez pas en disant, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Puisqu'il va... Non, vous plantez en disant, il va y avoir quelque chose. Mais la graine disparaît un certain temps, et même il ne se passe rien pendant un certain temps. Et puis, d'un seul coup, plouf, il y a une petite feuille verte qui sort, une petite plante, et ça pousse. Et si vous comparez la graine que vous avez mise au départ et la plante finale, c'est très, très différent. Mais si vous regardez à la racine de la plante, vous retrouvez la petite graine. Sauf qu'elle est complètement cassée et déchiquetée. Hein, parce que quand la plante a poussé, elle a complètement fait éclater la graine. Mais la graine est là, à la racine. Et c'est un peu ce qu'il veut nous dire pour le corps. Il dit, notre corps, là, un jour va mourir, périr et tomber en poussière. Dieu ne va pas reprendre les atomes de notre corps pour faire un nouveau corps. Non, ce n'est pas possible. Et les gens qui sont tombés dans l'eau, qui sont morts dans les océans, comment ça va se passer? Ceux qui sont brûlés, non. Nos atomes ont disparu hein, pour la plupart ou sont fondus dans la terre. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'à partir de ce corps, il va quand même créer un nouveau corps, mais... par rapport à notre corps, alors là, c'est là que ça reste mystérieux. La plante, le blé, si vous plantez un grain de blé, ça ne va pas donner un pommier. Vous êtes d'accord avec moi là? Vous me suivez? Si vous plantez un grain de maïs, ça ne va pas donner du blé. Bon. Si vous mourrez dans la foi au Seigneur Jésus, en étant disciple de Christ, chrétien, vous ressusciterez pour la gloire. Si vous mourrez sans le Seigneur, parce que vous n'êtes pas jamais converti, hein, vous ressusciterez pour la honte éternelle, dit la Bible. Et c'est ça, cette image du grain. Il y a des gens qui disent, après la mort, j'aurai une seconde chance. Il y aura le purgatoire, ou peut-être je vais me réincarner. Mais la Bible dit une chose en Hébreux 9, 27, si vous ne connaissez pas ce verset, soulignez-le dans votre Bible, hein. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne se réincarne pas. Le corps meurt et ressuscite, soit pour la gloire, soit pour la honte. Ça se trouve aussi dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 2 et 3. Les uns ressusciteront pour la gloire, les autres pour la honte éternelle. Si je suis semé chrétien, je ressusciterai dans la gloire. Si je suis semé inconverti, je ressusciterai pour la perdition éternelle. C'est pour ça que c'est avant de mourir qu'il faut se tourner vers Christ. Il y a une autre image dans la nature que Dieu nous a laissée qui n'est pas dans ce texte, c'est l'image de la chenille qui devient un papillon. Je trouve ça extraordinaire. C'est un animal unique, qui est une chenille qui rampe difficilement, qui est à la portée de tous les prédateurs, les oiseaux. En plus, elle a une bonne chair, hein, on peut en manger nous-mêmes, hein, c'est bon pour Je sais qu'en Afrique, on mange beaucoup de chenilles et on se régale. Hein. Et cette chenille qui rampe, un jour, elle s'enferme dans un cocon. Et quand elle ressort, elle est un magnifique papillon qui non seulement ne rampe plus sur la terre, mais en plus peut voler et aller très loin. Eh bien, c'est vraiment cette image de la résurrection. Nous nous traînons sur la terre avec notre corps faible, fragile, malade, pécheur. Mais quand nous ressusciterons, nous aurons un corps glorieux qui nous permettra d'aller au ciel. Savez-vous que notre corps se renouvelle dans ses cellules tous les 15 ans? C'est-à-dire, on a quasiment un nouveau corps tous les 15 ans. Sauf que il y a un certain nombre de cellules qui ne se renouvellent pas et qui vieillissent. Et c'est pour ça qu'on vieillit et qu'on meurt. Mais notre corps se renouvelle en permanence. Mais un jour, Dieu va le renouveler complètement à la résurrection. Verset 39, il dit « Toute chair n'est pas la même chair, autre est la chair des hommes, des quadrupèdes, des oiseaux et des poissons. » Ce verset nous montre qu'il n'y a pas eu d'évolution dans la nature, puisque Dieu a créé les hommes avec une certaine chair, comme il dit, les quadrupèdes avec une autre chair, les poissons avec une autre chair, les oiseaux avec une autre chair. Ce sont quatre êtres complètement différents génétiquement. Et un poisson ne peut pas devenir un quadrupède et un homme ne peut pas devenir un poisson. Et c'est même les généticiens, les biologistes le savent. Et ils continuent de croire en la théorie de l'évolution. Voilà. Et puis il dit, verset 40, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, de la lune, des étoiles, verset 41. Ainsi, verset 42, en est-il de la résurrection des morts ? C'est que la Bible nous dit que ceux qui auront été intelligents, ça c'est dans Daniel, brilleront comme les étoiles dans le ciel. Et quand il dit ceux qui auront été intelligents, il ne veut pas dire ceux qui auront bac plus 12 ou ceux qui auront fait beaucoup d'études, il veut dire ceux qui auront connu le Seigneur et qui l'ont fait connaître aux autres, ils brilleront comme les étoiles. Et je pense qu'il y aura des éclats différents, qu'il y a des chrétiens qui brilleront plus que d'autres. Parce qu'il est question dans la Bible d'un tribunal de Christ pour les chrétiens, d'un jugement pour les chrétiens. Ce n'est pas un jugement qui nous envoie en enfer, c'est un jugement qui nous donne des récompenses ou qui ne nous les donne pas. Le chrétien qui aura été particulièrement fidèle brillera plus et aura plus de récompenses dans l'éternité. Le Seigneur a dit souvent ces paraboles, hein, on confiera beaucoup à ceux qui ont été fidèles dans peu de choses. Et il parlait de la vie après la mort. Et puis, j'accélère un peu. Nous sommes arrivés au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est-à-dire qui peut mourir, qui peut pécher. Il ressuscite incorruptible, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas pécher. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Alors là, il faut une explication. Moi, j'ai toujours pensé que l'esprit et le corps sont des opposés. Le corps, c'est matériel et physique, et l'esprit, c'est pas physique, c'est pas matériel. Mais là, il dit, là, maintenant, vous avez un corps naturel, mais un jour, vous aurez un corps spirituel. Alors là, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est un corps spirituel? Et en fait, quand on regarde de près, c'est que nous avons un corps, la Bible ici dit psychique, c'est-à-dire qui est fait pour la terre, pour qui a une âme, qui porte l'âme. Hein, notre âme habite dans notre corps. Notre corps est une tente dans laquelle nous habitons. Mais qu'un jour, notre corps portera l'esprit que nous avons dans le ciel. Un corps spirituel, c'est un corps qui est fait pour vivre dans le monde spirituel. Est-ce que nous pourrions vivre sous la mer jusqu'à la fin de nos jours? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des branchies comme les poissons. Nous ne pouvons pas respirer sous l'eau. Est-ce qu'un poisson peut vivre sur la terre jusqu'à la fin de ses jours? Non, un poisson n'a pas les poumons pour respirer l'oxygène. Est-ce qu'un chrétien terrestre peut vivre dans le paradis céleste, dans la Jérusalem céleste? Non. Parce que son corps n'est pas fait pour aller dans le ciel. On a besoin d'un corps spirituel, un corps fait pour habiter au ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Contrairement à ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah qui disent que leur espérance est terrestre, la Bible est claire, nous sommes destinés à vivre au ciel. Même si on va régner avec le Seigneur sur la terre, notre demeure, c'est le ciel futur. Nous serons des êtres spirituels comme Christ, avec un corps adapté. Et puis, on va regarder verset 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, d'accord, hein? Notre corps est d'abord naturel et ensuite, quand il ressuscite, il sera spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Qui c'est le premier homme? Adam. Le second homme est du ciel. Qui est le second homme? Christ, par lequel nous ressusciterons. Lui, il est céleste, donc on va être semblable à Christ. Tel est le terrestre. Tant qu'on est fils d'Adam, on est terrestre, mais quand on devient fils de Dieu, eh bien, on devient céleste. Fils de Dieu dans le sens enfant de Dieu, pas fils unique de Dieu. Hein. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Là, il rajoute, hein, mais c'est toujours la même chose. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire avec notre corps physique, là, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Il faut un nouveau corps. Et puis nous arrivons à la fin, à notre fameux mystère. Voici, je vous dis un mystère, verset 51. Nous ne mourrons pas tous. Pourquoi dit-il cela? Instant, verset 52. En un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors il faut regarder 1 Thessaloniciens 4 pour comprendre où il parle aussi d'une trompette et de la résurrection. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, donc les chrétiens morts dans la foi, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, c'est-à-dire si on est vivant, le jour de l'avènement de Christ. Que va-t-il se passer? Il dit, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. D'accord? Et dans, à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et 1 Corinthiens, il donne une précision. Il ne dit pas, nous serons enlevés, il dit, nous serons changés. Ce n'est pas qu'il se contredit lui-même, c'est qu'il donne un autre détail. C'est qu'avant d'être enlevés, on va être transformés, on va recevoir le corps de gloire sans mourir. Puisque si on est vivant le jour de l'avènement du Seigneur, il faut bien participer à la résurrection pour aller au ciel. Hein. Pour monter avec le Seigneur au ciel, il faut être ressuscité. Le problème, c'est qu'on n'est pas mort. Comment on peut ressusciter quand on n'est pas mort? Eh bien, le Seigneur a prévu, bien sûr, de nous changer en un clin d'œil. Alors, il y a eu beaucoup d'images que les hommes ont essayé d'imaginer, hein. Notamment ces images des vêtements, les gens qui passent au travers de leurs vêtements, hein, le jour de l'enlèvement, on va voir le pull, le pantalon, les chaussettes, les chaussures, tout bien étalé par terre. Et on va voir que la personne a traversé ses vêtements pour partir. Peut-être que ce sera comme ça, je ne sais pas. J'ai été frappé par ce film américain où c'est ce pilote d'avion. Hein, et l'hôtesse, c'est la nuit, l'hôtesse regarde les passagers. Et puis à un moment... Elle découvre qu'il y a plein de passagers qui manquent et qui ont leurs vêtements sur le fauteuil, comme ça. Chut. Alors elle panique et elle va voir le pilote. Elle dit, capitaine, il y a des gens qui sont plus là. Alors il rigole, il dit, on ne part pas d'un avion, madame. C'est pas possible, on ne peut pas quitter un avion en route comme ça. Il dit, si, ils ne sont plus là, allez voir. Alors il se lève, il va voir et il voit les vêtements comme ça posés sur les fauteuils. Le pull, le pantalon, les sous-vêtements, les chaussettes, les chaussures. Il dit, c'est pas possible, ils sont tout nus en plus. Non seulement ils sont partis, mais ils sont tout nus. Et il les cherche partout. Et là, il se rappelle ce que sa femme, qui était chrétienne, qui étudiait la Bible, lui avait dit. Hein, un jour, il y aura un enlèvement. Et ça l'amène à réfléchir. Et puis après avoir atterri, il va devenir chrétien lui aussi. Mais il y a un jour, effectivement, où le Seigneur va transformer ses enfants. Nous croyons que le retour de Christ se fera en deux fois. La première fois pour chercher son Église, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. Il va les chercher, les transformer, les ressusciter. D'abord les morts, depuis la Pentecôte, hein, depuis Acte 2, tous les chrétiens morts vont ressusciter, tous les vivants vont être transformés et tout ce monde-là va partir, attiré comme un aimant vers le Seigneur dans le ciel et seront pour toujours avec le Seigneur. Et puis, à partir de ce moment-là, il va se déchaîner sur la terre une puissance de séduction et de ténèbres. Viendra une bête qui s'appelle l'Antéchrist, qui va se faire passer pour Jésus-Christ. Viendra des moments de persécution, de dictature mondiale, mais aussi de fléau de Dieu qu'on appelle la grande tribulation, qui est décrite dans l'Apocalypse et dans Daniel. Et à la fin de ces 7 ans, le Seigneur reviendra, cette fois-ci, non pas dans le ciel, mais sur la terre, pour juger le monde. Car ce sera le temps du jugement dernier. Il descendra écraser les armées de l'Antéchrist qui s'attaqueront à Jérusalem et à Israël. Et il établira son règne pendant 1000 ans. Et à la fin des 1000 ans, il y aura le jugement du grand trône blanc, comme on l'appelle, le jugement de tous les morts sans Dieu. Car ceux qui sont morts en Christ ne seront pas jugés, dit la Bible, hein, puisqu'on est sauvés, graciés. Mais ceux qui sont sans Christ et qui meurent sans Christ seront jugés. Il y aura des livres, il y aura le livre de vie de l'agneau. S'ils ne sont pas dans le livre de vie, eh bien, ils seront malheureusement jetés dans l'étang ardent de feu, comme dit la Bible. C'est pour ça que le Seigneur retarde son jugement. C'est pour ça que le Seigneur permet que l'Évangile parcourt le monde pour qu'un le plus grand nombre possible soit sauvé. Mais peut-être que nous participerons à ce mystère, que nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette, que notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et alors, verset 54, « S'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et c'est vraiment un cri de victoire sur la mort. Qui aujourd'hui peut s'adresser à la mort et dire hein, « tu es vaincu » À moins d'être fou, hein, personne. Mais quand nous serons ressuscités, nous pourrons dire à la mort « bye bye, c'est fini, tu ne mourras plus parce que je suis ressuscité avec Christ ». L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Ici, c'est une sorte de digression où il explique que la mort est là à cause du péché et le péché a été révélé par la loi, hein, par les commandements. Mais avec Christ, il a effacé notre dette envers la loi, notre culpabilité par son sang précieux. Et grâce, verset 57, soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons louer le Seigneur. Le verset 58 termine par une conclusion justement plus terre à terre. C'est ça que j'aime bien. Puisqu'on a vu tout ça, dit-il, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Vous dites, mais là, moi, quand je prie, quand je témoigne, quand je vis pour le Seigneur, j'ai que des problèmes, des gens qui sont opposés à moi. Continue de vivre pour le Seigneur, parce que tout ça, c'est consigné dans son livre. Tu seras consolé, récompensé pour tout ça. Je pense aux frères et sœurs qui sont morts pour leur foi, leur corps a disparu, on n'a même plus entendu parler d'eux. Ils ont été parfois torturés. Et on se dit, mais c'est une vie perdue ? Non, ce n'est pas une vie perdue. Parce que le Seigneur va les faire briller doublement dans le ciel, cela. Hein. Doublement, triplement. Comme en ce moment, hein, il y a une étoile de plus près de la Lune. Hein. Il y a une conjonction planétaire, il y a une nouvelle étoile qui brille en plus de Vénus. Et Il y aura des étoiles là qui vont briller magnifiquement. Ce sera ces chrétiens fidèles qui ont travaillé à l'œuvre du Seigneur. Ne vous laissez pas ébranler dans votre foi, hein, dit-il. Ne vous laissez pas décourager par les circonstances présentes, mais pensez qu'il y a un jour bientôt la résurrection. Le Seigneur vient bientôt et nous l'attendons. Merci de votre attention.